C'est le rêve de Jean-Luc Godard, en fait, hein, TikTok.
Ça peut être intime, ça peut être militant, ça peut être poétique.
Bienvenue dans ces rencontres Chaillot Augmenté TMN Lab.
Je suis très heureuse de vous avoir tous les trois avec moi.
Quelles sont les cultures qui ne sont pas là? Quels sont les corps qui ne sont pas là? Il faut mettre en pratique la démocratie au sein même des lieux culturels, sinon ils n'auront plus aucune raison d'être financés.
Oui, je crois que je vois pourquoi j'ai dit ça.
Notre question du jour, comment le numérique redessine le rapport au spectacle vivant? La question des publics est soulevée en creux depuis le début de l'événement. C'est un sujet fondateur pour la communauté TMN Lab qui s'est créée autour de la question des pratiques culturelles, des pratiques des publics dans un monde digital et des changements de relations qui pouvaient se nouer entre les institutions, les artistes et les publics. L'an dernier, nous recevions Isabella Pluta, Marie Ballarini, Cyril Garçon pour interroger la façon dont les publics vivent les expériences, les œuvres en environnement numérique. Et je ne peux que vous recommander, petit instant publicité, d'écouter ce podcast enregistré qu'on a mis en ligne pour nourrir toujours nos réflexions. Et donc, pour poursuivre ces réflexions autour des changements dans la relation avec les publics, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à comment le numérique redessine le rapport des publics aux arts vivants, aux formes, aux institutions. Pour ce faire, je suis entourée de Benoît Labourdette. Tu es cinéaste, pédagogue, chercheur, tu es consultant en innovation culturelle et en stratégie numérique. On suit ton travail depuis longtemps, notamment dès la création du Pocket Film Festival, dont j'imagine tu diras un mot, et jusqu'à plus récemment, les travaux que tu fais avec de nombreuses institutions autour de ces pratiques, entre pratiques des jeunes, relations aux institutions, préservation des espaces d'intimité, droits culturels. Nicolas Ligeon, tu es co-directeur du Théâtre de l'Élysée, cofondateur et coordinateur du collectif Sous les Néons, dont on nous a beaucoup parlé ces deux dernières années dans nos recherches autour de ces rencontres art numérique, art vivant. Notamment dans le cadre de ce collectif, tu as co-écrit un manifeste autour de la playformance et tu nous parleras de comment est né ce collectif, ce que vous avez proposé, ce que ça produit. Et puis Rachid Ouramdan, tu es président-directeur de Chaillot Théâtre National de la Danse, tu es chorégraphe évidemment. Dans ce lieu, tu as voulu travailler la question de l'hospitalité et dans ces questions d'hospitalité, c'est aussi comprendre comment à l'ère numérique, les pratiques muent, bougent. La danse est particulièrement une illustration de ces matières, de nouvelles formes de viralité, de mouvement. Comment une institution nationale se positionne pour entrer en dialogue, aller vers, créer des nouveaux liens. Et donc, je suis très heureuse de vous avoir tous les trois avec moi ce matin. Ce que je propose pour commencer, c'est un premier tour de table pour justement un petit peu parler de vos expériences, de votre point de vue. Donc, ce que je disais, c'est notamment, tu travailles depuis très longtemps sur ces questions des nouvelles pratiques numériques, de ce qu'elles déplacent et de ce qu'elles nous déplacent. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ton approche de ces questions ?
Oui, alors tu citais le festival Pocket Film que j'avais fondé il y a 21 ans maintenant avec le Forum des Images. À Paris, c'était un festival consacré à la création audiovisuelle avec téléphone mobile, mais on l'avait créé au moment où la caméra arrivait dans les téléphones mobiles, ce qui arrivait en même temps que le réseau 3G, que le haut débit sur les téléphones mobiles. Et en fait, c'était intéressant à l'époque parce que il y avait des gens, on a été partenaire avec plein de gens, on a en fait produit énormément de films, parce que quand on a créé cet événement, bah, il n'y avait pas de films. Et puis, en plus, les gens pouvaient dire, non, mais si vous voulez faire un film, vous prenez une caméra, c'est n'importe quoi de faire des films avec téléphone portable. Mais bien au contraire, parce que en réalité, c'est quoi la caméra dans les téléphones portables? C'était, moi je savais que 10 ans plus tard, tout le monde aurait en permanence une caméra dans la poche. Donc ça, c'est un changement anthropologique, en fait. C'est-à-dire, ça change la place de l'image, de la réception, de la production, de la transmission dans la vie quotidienne des gens. Donc du coup, ça nous change et il me semblait intéressant d'accompagner en même temps que l'arrivée de cette technologie, qu'est-ce que les artistes ont peut-être à faire, à réfléchir, à apporter là-dedans. Et du coup, je me place et dans la manière dont je travaille, hier par exemple, je faisais faire de la réalité virtuelle à des collégiens à Lyon, mais bien sûr, on regardera les images dans un casque, mais ce qui est passionnant, c'est la caméra, en fait. Souvent, on se dit, réalité virtuelle, on va faire des productions professionnelles, puis les gens vont regarder dans des casques. mais du coup, on ne bouge pas du tout la place et l'affectation, finalement, entre l'artiste et le spectateur. Ça, ça ne bouge pas. Alors que, qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur TikTok? Prenons TikTok. Je pense qu'il y a peu de personnes dans la salle qui ont TikTok dans leur téléphone. Je vous invite à l'installer. TikTok, c'est une application de diffusion, mais avec l'appui sur un bouton, vous pouvez produire. En un bouton, vous pouvez créer, produire. C'est le rêve de Jean-Luc Godard, en fait, hein, TikTok. Vraiment, et il l'écrit. Et du coup, il y a des palimpsestes créatifs incroyables. Et simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'à cet endroit-là, ma place, je ne suis pas juste spectateur. Je peux être aussi auteur, participant. Donc, ça pose voilà, des questions anthropologiques, à mon avis, importantes. Et puis, je donne deux, trois autres notions rapidement. Je pense que... aussi les pratiques culturelles, nous, parce que là on parle du rapport au public, nous, moi je travaille pour l'institution aussi, je suis indépendant, mais enfin je travaille quasiment que pour des institutions, et tiens, je n'ai pas fini mon exemple sur la réalité virtuelle, ce qui est intéressant, c'est cette caméra qui filme tout autour, et comment on va inventer ensemble la mise en scène pour l'image, et où on va regarder, moi j'aime beaucoup montrer les rushs, en binoculaire, c'est-à-dire on voit les deux images, vous savez, avant et arrière, tout est déformé, etc. Notre regard est bizarre, mais ça c'est intéressant, parce que tout à coup on détourne aussi cette technologie de son usage initial, tout comme le cinématographe au début a été détourné de son image initiale pour raconter des histoires, ce qui n'était pas du tout prévu dans la technologie initiale. Donc je pense que cette réappropriation que se font les publics, ces changements de place, changent ce que c'est qu'une œuvre, ce que c'est qu'un artiste, ce que c'est qu'un spectateur, c'est tout ça, en fait, qui change. Et du coup, c'est compliqué, parce que nous, on veut faire des choses bien pour des gens, enfin, je veux dire. Donc, c'est complexe. Et je pense qu'il y a une question de coopération aussi. Comment on coopère, comment on change de place. Et pour revenir au Festival Pocket Film, nous, on avait prêté des téléphones, parce que personne n'avait à l'époque ces téléphones-là, à plein de gens, mais pas que des artistes, plein de gens, et des gens dont ce n'était pas forcément le domaine. Et je reviens, j'étais passé par la réalité virtuelle, je reviens. En fait, les pratiques culturelles, aujourd'hui, les pratiques culturelles majoritaires de nous-mêmes et de tout le monde se passent via le numérique. Donc, les propositions qu'on fait dans les institutions qui sont les nôtres, sont des propositions marginales, en fait, par rapport aux pratiques culturelles. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est très récent, en fait, tout ça. Nous sommes les marginaux. Mais comme le disait Jean-Luc Godard, il disait, ce sont les marges qui font tenir la page. On a toute notre légitimité. Hein. Ce n'est pas du tout pour faire un discours démago, du tout. Et je pense que, et pour finir là-dessus, il y a une notion qui me semble assez opérante, que moi, sur laquelle je travaille beaucoup, qui est la notion de droit culturel, c'est-à-dire des outils pour respecter la dignité des personnes, pour respecter les communautés, l'identité, etc. Enfin, il y a tout un tas d'outils là-dessus. Et ce que ça amène à quoi, les droits culturels? Ça amène à cette distinction entre la démocratisation culturelle, ce qui vient d'en haut, rendre accessibles les grandes œuvres de l'humanité, à la démocratie culturelle, c'est-à-dire comment on s'enrichit les uns les autres. C'est souvent très critiqué, et je sais que ce que je dis là peut être un peu critiqué, on pourrait m'accuser de relativisme culturel, de dire, bah oui, bah à ce moment-là, ça veut dire que tout se vaut, alors que quand même, les artistes font des choses super, etc. Mais tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'esthétique de la relation, et je pense que dans l'horizontalité, chacun, dans sa singularité, on peut s'enrichir énormément, c'est l'intelligence collective, et dans les places qu'on a, c'est extrêmement riche, en fait, de redonner du pouvoir à d'autres personnes, et c'est des sujets de démocratie, et même, je crois que finalement, ça change la conception même, et on va l'entendre avec vous deux, la conception même de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, en fait. Et ça, on l'a dès la philosophie pragmatiste du début du XXe siècle, avec John Dewey, l'art comme expérience, qui dit... et qui est bien repris aujourd'hui, notamment par les droits culturels, et pas que, qui dit, mais qu'est-ce que c'est que l'art, en fait? Est-ce que l'art, c'est un objet extérieur à nous Il dit, mais non, en fait, l'art, c'est l'expérience vécue par les personnes. Et quand on parle d'expérience immersive, etc., on est bien là-dessus. Et quand on parle de, du X, de user experience, tout ce qu'on a dans le numérique, finalement, mettre l'expérience au centre, mais l'expérience collective, peut-être avec plus d'égalité, je crois qu'on a tous à y gagner, mais c'est facile à dire, mais en fait, c'est hyper compliqué à faire parce que ça touche même dans les postures de comment hier... je suis avec des collégiens, quelle place je donne aux idées qu'ils me proposent, en fait. Et du coup, cette ouverture qu'il faut travailler, me semble-t-il, est une clé importante. Et puis, et je terminerai là-dessus, pardon, je ne vais pas être trop long, sur les questions d'intelligence artificielle, de numérique. Le numérique, pour moi, ce n'est pas un sujet, en fait. Et à la limite, qu'on mette du numérique, cette perso, sur scène ou pas, c'est pas très important. Pour moi, s'il y a du numérique sur scène, mais s'il y a des gens assis dans la salle et des grands artistes qui font des trucs sur scène, bah finalement, c'est hyper tradit, tel que je le vis personnellement, même s'il y a des bip-bip sur scène. Ça, c'est un avis personnel. Mais je pense que le numérique, c'est notre milieu d'existence. Ça produit des changements anthropologiques, ça nous bouge, et du coup, ça, c'est une commodité aussi, comme on dit. Enfin, le numérique, c'est comme l'air, c'est comme l'électricité. Et ce qui se passe en ce moment, on le sait hein, maintenant, c'est que l'intelligence devient la cognition devient une commodité. Donc ça nous modifie en profondeur. Donc c'est pas vrai que l'intelligence artificielle, c'est juste un outil, tout ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est tout comme, vous voyez, le téléphone portable, ça a changé notre rapport à l'espace, au temps, à l'intimité, aux images produites par les gens, à la politique, enfin, à tellement de choses. Mais l'intelligence artificielle, ça change en profondeur. Et du coup, c'est hyper intéressant, quoi. Mais je pense que... Enfin, moi, j'essaie, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaie de remettre en question mes propres pratiques. Et c'est vrai que dans les accompagnements que je fais, je trouve que passer par l'expérience, essayer des choses, tenter, et du coup, peut-être avoir des formes plus légères, mais on expérimente. Et ce que j'entendais du cube, je trouvais ça magnifique, j'ai adoré, parce que je trouve que c'est tout à fait dans l'esprit de ce qui, moi, m'intéresse de travailler, quoi.
Oui, on voit ces enjeux méthodologiques, d'une part, de construire des façons de faire, de partager des façons de faire, des enjeux de conceptualisation, de comprendre ces transformations, de comprendre ces implications, de pouvoir les discuter, les débattre ensemble, et puis des enjeux d'expérimentation, parce qu'effectivement, si on n'expérimente pas, si on n'est pas aussi dans le faire, c'est très compliqué de pouvoir évoluer sur tous ces sujets et entrer en relation différemment, potentiellement avec les publics. Du coup, Nicolas, on avait envie d'explorer avec toi le travail que vous avez fait dans le collectif Sous les Néons. Je t'invite à donner quelques mots sur justement ce qu'est ce collectif, qui le compose, et puis de travailler autour de ces questions de performance.
Tout à fait. pardon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Le collectif Sous les Néons, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif qui est jeune, qui a 5 ans. On se sous-titre collectif d'expérimentation d'autres pratiques du jeu vidéo. Donc on travaille autour des pratiques du jeu vidéo. Et je dirais qu'on se pose la question de, finalement, qu'est-ce que le service public de la culture. Je dis ça parce que ça fait 20 ans que je travaille dans ou pour le service public de la culture, dans des lieux de spectacle vivants, à faire, à dire avec cette matière qui sont les cultures vidéoludiques, sachant que la pratique du jeu vidéo est la première pratique culturelle en France. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait plein de choses, notamment des expositions, ce qui peut paraître bizarre, parce que le jeu vidéo n'est pas un objet qui a été fabriqué pour être exposé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'exposer ? D'éditorialiser, de faire des choix de jeux vidéo, qu'est-ce qu'il raconte sur notre monde, comment on les met en scène, les scénographies, etc. Je ne vais pas plus développer ça, parce que ça serait trop long, mais il y a un des aspects du travail qu'on mène qui, je pense, est pertinent dans cette journée, qui s'appelle les playformances. Donc les playformances, c'est très dur à définir à l'oral, il faut presque en voir une pour vraiment saisir ce que c'est. Mais en gros, c'est comment on se sert d'un jeu vidéo donc qui existe, comme une matière d'écriture théâtrale, je dirais. Donc, c'est-à-dire comment on prend un jeu et on va le performer sur scène, on va le jouer. Donc ça part du principe qu'un jeu s'interprète, puisque s'il n'est pas joué, il n'existe pas, et chaque interprétation est différente. Et donc ce sont des personnes qui vont jouer un jeu sur scène, et en partant de ce qu'est le jeu, alors ça peut être ses mécaniques de jeu, ça peut être son esthétique, ça peut être son propos, sa narration, vont s'en servir comme une matière pour raconter autre chose. Et cette autre chose, ça peut être intime, ça peut être militant, ça peut être poétique, ça peut être purement performatif. Formellement, ça ressemble un peu à du stand-up. En fait, c'est une personne seule sur scène. Le jeu vidéo est projeté derrière. On joue face public. On a un micro HF et on se met à parler. Donc, c'est comment on fait un récit en s'appuyant sur une œuvre déjà existante, qui est le jeu vidéo. Voilà. Et les performances ont débuté 2016-17 ici à Paris, notamment dans Indicate Europe, donc des événements de la scène jeux vidéo indépendante. Le Covid a mis fin à ça. Et Simon Bachelier, qui était une des personnes qui a inventé le concept, a déménagé à Lyon, là où nous sommes basés. Et notre rencontre a fait qu'on a relancé ça donc au Théâtre de l'Élysée à Lyon, un petit théâtre dans le quartier de la Guillotière. Voilà. Et l'intérêt de ces performances pour nous, il est évidemment pluriel. Déjà, c'est juste de se rendre compte que c'est chouette de voir comment un jeu vidéo peut pousser la créativité, comment on peut être créatif à partir d'un jeu, parce qu'il nous a parlé, parce qu'il nous a touché, parce qu'il nous a ému. On peut vivre des émotions en jouant à des jeux vidéo. Je dis un peu bêtement, parce que le jeu vidéo souffre encore énormément d'a priori, mais j'en parlerai, et dites-vous ça, comme on peut parler d'une œuvre littéraire, d'un film, c'est exactement la même conséquence pour nous, qu'ils pratiquons. Il y a des trucs nuls, il y a des trucs super, des trucs qui nous font réfléchir, des trucs qui nous émeuvent, des trucs qui nous accompagnent toute notre vie, et des trucs qui nous servent à passer un passage de notre vie aussi. Voilà, donc ça nous pousse comment on peut être aussi créatif avec ça, et comment on peut exprimer sa singularité. Et puisque les personnes qui playforment sont de tous bords, entre guillemets, ou de tout horizon, puisqu'il n'y a pas que des professionnels du spectacle, mais il y a aussi des gens qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, des gens qui sont des streamers ou des streameuses, des gens qui sont juste fans de jeux vidéo, donc c'est très large. Et là, ça rejoint une des notions que tu évoquais, des droits culturels, c'est que l'intérêt pour nous, c'est évidemment de permettre une diversité de ce qui est représenté sur scène, alors que ce soit les personnes qui playforment, des corps, des voix, des points de vue différents, mais aussi les choses qu'elles racontent, les sujets qui sont amenés sur scène, puisque souvent c'est des sujets qui concernent les personnes qui en font le récit. Et du coup, on a une diversité de personnes, et ça questionne beaucoup, puisque, et là aussi je repars sur ce que tu as évoqué de l'institution, moi je me place un peu dans une caricature, mais c'est pour parler vite de l'opposition un peu beaux-arts et art populaire, puisqu'on se retrouve à jouer dans des théâtres. Pour vous donner, pour vous voyez un peu ce que c'est, les performances, ça joue autant dans des centres sociaux des MJC que dans des scènes nationales, des musées, etc. Donc ça touche un spectre large de lieux culturels ou socioculturels. Et c'est vrai que ça questionne, parce que on se retrouve avec des non-professionnels pour la plupart sur scène, et ce qui est produit en termes de spectacle, appelons-le comme ça, c'est pas hyper pertinent de l'analyser avec les outils classiques du spectacle, c'est-à-dire comment c'est écrit, la dramaturgie, la mise en scène, l'interprétation, lumière, son, etc. Pas que ça peut pas raconter quelque chose, mais le plus intéressant, c'est ce que ça produit et qu'est-ce que ça produit dans la salle. Et ça produit des choses. Alors les performances n'échappent pas à toute forme de spectacle. Il y a des moments où on s'ennuie très fort et c'est vraiment nul. Et des fois, c'est touchant à pleurer. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Mais c'est ce qu'on met en avant, nous, c'est la diversité que ça propose. C'est aussi une manière de valoriser, alors pour l'instant, on verra dans 10 ans, une manière de valoriser ces cultures qui sont encore pas assez valorisées à mon goût. Enfin, je ne vous citerai pas les politiques qui très dernièrement ont encore mis le jeu vidéo dans la liste des choses qui font que cette société va mal. Donc, mine de rien, un des effets qu'on voit, ça fait 5 ans qu'on fait régulièrement des soirées performance, soit dans notre lieu, soit en tournée dans d'autres lieux, que les personnes qui jouent, évidemment, mais les personnes dans la salle disent, voilà, ma culture a une valeur parce qu'elle est ici, à Chaillot, dans un lieu qui valide ce qui a une valeur ou pas, mine de rien, c'est ça. C'est symbolique. Donc ceci, cet effet-là, et donc ça crée des moments très chouettes. Et puis, dernière chose, après je te passe la parole, c'est, parce qu'on parle des publics, effectivement, il y a des personnes qui viennent dans notre théâtre qui n'y viennent pas par ailleurs, parce que c'est le jeu vidéo. Voilà. Et c'est pas des personnes qui reviennent voir autre chose. Donc, je sais que des fois, la vue du dessus un peu des institutions culturelles, de trouver des chevals de Troie pour faire venir les publics voir les vraies œuvres de l'humanité, comme tu citais Malraux, ça a une valeur en soi, et on est très content que ces gens viennent ce soir dans nos théâtres, et on s'en fout qu'ils ne reviennent pas voir les autres choses. Voilà. Donc ça attire des nouvelles personnes, et en fait le truc important pour moi, c'est pas de pouvoir dire c'est super, j'ai des nouveaux publics dans mon théâtre, je m'en fous. Ce que je me dis, c'est qu'on a fait une super représentation, et pour des gens pour qui la représentation, enfin le fait de vivre ça, parce que c'est une représentation du théâtre au sens presque anthropologique, c'est-à-dire Quelqu'un qui à un moment donné se lève au-dessus des autres et se met à faire un récit. C'est des moments chouettes à partager, qu'on partage dans des lieux où on n'a que des spectacles professionnels, mais qu'on peut partager un apéro entre amis aussi. Hein, quelqu'un qui va raconter une anecdote, on va être pendu à ses lèvres, partir dans un monde, etc. Donc c'est ça qui est important pour nous. Et je sens, et je finirai là-dessus, qu'effectivement, ça m'a questionné moi, et puis ça a questionné lui où on joue, ce truc de, pour encore une fois caractérisé, d'être très séduit par le concept. En plus, comme c'est peu connu, c'est encore peu diffusé, plein de gens n'en ont pas vu. Qui en a vu, par exemple, dans cette salle, des Playformance ? Toi ? Ah ouais ? Ok, tu me diras like. Et voilà, donc du coup, il y a un effet un peu de séduisant, de, ouais, un concept, en plus, le jeu vidéo, oui, les stats sont tombés, hein, les premières pratiques, je leur ai français, on va attirer des jeunes et tout. Et déception. Ah ouais, non, mais ça vaut pas un spectacle de Rachid, par exemple. Ça vaut pas... etc. Et du coup, je vois que ça questionne mes interlocuteurs, interlocutrices qui dirigent des établissements culturels. Mais comment on prend ça, quoi ? Où c'est qu'on le met ? Comment on le vend, même presque par rapport à eux-mêmes ? Comment on se vend nous-mêmes, dire on programme ça, quoi ? Et la question est intéressante. Et moi, ma réponse, c'est évidemment que ça n'a rien à voir avec des spectacles professionnels. C'est pas là pour les concurrencer. Par contre, c'est la question de droit culturel, tout simplement du partage. Des outils publics qui sont nos institutions et comment on laisse la place aussi à une diversité plus grande dans ces outils. Merci.
Merci beaucoup. J'avais envie de rebondir sur le moment où tu dis ils viennent voir ces formes et parfois ne reviennent pas voir autre chose. Et je citerai Simon Fleury qui dirige la scène nationale de Dieppe qui à un moment disait c'est très bien, on demande aux gens de se démocratiser culturellement et de diversifier leurs pratiques, mais des fois parfois il faudrait commencer par se démocratiser soi-même en allant aussi voir des choses qu'on ne va pas voir naturellement. Et quel est le critère en fait qu'il faut poser dans ces relations-là. Je vois en tout cas dans tout ce travail une belle exemplification d'un processus en fait, de rencontre au sein du collectif de gens qui viennent du spectacle vivant et des gens qui ne viennent pas du tout du spectacle vivant, mais par contre des gamers, des gens qui connaissent ça, l'envie de faire ensemble en fait, qui fait naître un désir à un endroit qui est tout d'un coup la scène, qui devient le lieu d'accueil, qui fait la place à une forme qui se crée, qui fait la place aussi du coup à des publics qui viennent exprimer et passer du côté de la scène, parce que c'est aussi une des forces du numérique. Les publics sont des créateurs en fait, un peu partout, créent, et donc où est-ce que ça se déplace, comment nous on fait la place, et puis dans la salle potentiellement aussi cette place qu'on fait à des personnes qui vont venir parce que quelque chose leur a fait signe, qui vient d'eux davantage. Rachid, du coup, effectivement, cette question de comment le numérique redessine le rapport du spectacle vivant, toi, tu l'expérimentes aussi dans ton travail de chorégraphe, dans ce que tu veux porter auprès des publics à Chaillot. Et donc, comment tu perçois ces questions-là en tant que président directeur de Chaillot ? Ah, j'ai l'impression que le micro ne démarre pas. Ah, oui, c'est bon. Super.
Oui, il y a plusieurs entrées, peut-être d'abord vis-à-vis des publics et par rapport à une institution comme Chaillot et pas en tant qu'artiste. Je suis assez convaincu qu'en fait, la meilleure façon de faire avancer le champ artistique, c'est avec le public, c'est en sachant inviter les regards les plus multiples possibles autour des œuvres et auprès d'une institution. Donc, le premier environnement numérique, c'est, et tu l'as très bien dit, c'est l'environnement de notre quotidien. Avant de parler des environnements immersifs et créatifs, etc. Et c'est vrai qu'à Chaillot, on se pose toujours la question de savoir ce qui n'est pas là. Quelles sont les cultures qui ne sont pas là ? Quels sont les corps qui ne sont pas là ? Et essayer de rentrer dans une relation assez horizontale, pour reprendre les mots qui ont été employés, c'est de se donner les moyens d'observer ce que font déjà les gens aujourd'hui avec leur corps, avec leur danse, et du coup avec cet environnement qui est en train de croître, qui est l'environnement numérique dans leur quotidien. Donc peut-être que pendant longtemps, certaines institutions ont fonctionné de façon assez descendante en mettant l'artiste au cœur de la production et en lui confiant des outils de création qui faisait qu'il produisait et ensuite on invitait un public à venir découvrir son œuvre. Des outils technologiques, moins technologiques, etc. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une sorte de précipitation des usages du numérique, et aussi, et ça génère des précipitations dans l'usage des corps. On voit plein de mouvements de contre-culture jaillir, le jump style que le ballet de Marseille a travaillé, donc le jump style qui était des échanges de danse où on saute, comme l'indique son nom, de façon très frontale, adressée à une caméra, qui se partageait uniquement sur des réseaux sociaux. C'était une pratique partagée, je ne sais pas si ça fait œuvre, je ne sais pas si c'est encore de l'art, mais en tout cas, il y a de la danse, il y a du corps, il y a des personnes qui s'impliquent et ça fait lien. Il y a quand même un échange de sensibles, il y a des choix musicaux, etc. Donc, à partir de là, voilà, ça, on identifie une pratique. Nadia Vadori-Gautier, après les attentats de Paris, décide de créer une minute de danse tous les jours qu'elle va filmer, qu'elle va mettre en partage. Là aussi, je ne sais pas si ça fait œuvre au sens classique, au sens beaux-arts, mais en tout cas, ça met en lien des personnes, toujours autour du corps, avec des enjeux critiques, un positionnement dans la société. Donc voilà, TikTok, alors il faudrait vérifier le chiffre, je ne sais pas si je suis à la page, mais je crois que 70% des contenus de TikTok étaient des contenus dansés, chorégraphiés. Quoi d'autre ? Les K-popers aussi. Un jour que j'ai découvert de la fenêtre de mon bureau, je n'étais pas très dans la K-pop. Et je vois la façon qu'ils ont de développer une grammaire devant un lieu iconique où ils se filment et qu'ils mettent en partage et qui s'adressent ensuite à des millions de jeunes sur l'ensemble de la planète. C'est le cas, hein, vraiment. Alors, il y avait un groupe, là, je vais les voir, je descends. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous dansez ? Parce que, bon, vu qu'il y a le théâtre qui est sous leurs pieds, je me dis, est-ce qu'ils savent ? Est-ce qu'ils savent que ça danse ici ? Est-ce qu'ils savent qu'il y a une institution nationale ? Alors, évidemment, non, malheureusement. Et du coup, voilà, on commence à dire, vous êtes qui ? Je suis chorégraphe, t'es qui ? Rachid Ramdan ne connaît pas. Voilà. Mais voilà, je vois encore une pratique de danse qui, alors qu'on peut dire, et peut-être dans un univers de la reproduction massifié, pas spécialement dans un regard critique, quoique, mais en tout cas, dans tous les mouvements de contre-culture, à un moment donné, il y a quand même quelque chose de populaire, que ce soit le punk, le rock, le hip-hop, quoi, tout ce qu'on veut. À un moment donné, à l'intérieur, il y a des moments d'inattendu, il y a des moments de bifurcation qui font que vont jaillir quelque chose qui aura plus un statut d'œuvre artistique, et puis, ou alors qui restera plus de la pratique partagée. Et je pense qu'une institution culturelle, si vraiment elle va embrasser une mission de service public, elle se doit d'être à cet endroit-là. Parce que la première chose qu'on signe, je crois, à la tête d'une institution, c'est la capacité à rassembler. Avant même de se dire, bon, t'es plutôt patrimonial, académique, underground. Déjà, cette capacité à mettre de la culture en partage et des œuvres, c'est déjà la première case, je crois, hein, qu'il faut cocher et qu'on essaye de cocher à Chaillot. Donc, c'est là, en fait, où le digital m'intéresse en premier lieu. C'est dans cette capacité à ouvrir la porte à des cultures partagées qui, bon, vu que je commence à vieillir, je peux l'affirmer, à un moment donné, ça va faire œuvre au sens critique tel qu'on peut en attendre d'une institution. Mais je pense qu'on se doit d'être dans l'accompagnement de toutes ces initiatives. Parce que notre premier laboratoire, c'est peut-être celui-là. C'est pas de réunir des moyens, des outils et une pensée et de s'enfermer dans un studio. Peut-être que notre premier laboratoire, c'est tout le temps de travailler avec les publics, les artistes et de voir toutes ces interactions qui sont possibles. Donc voilà, je dirais ça par rapport au public. Pour commencer, donc c'est savoir donner la place. L'hospitalité au sens de pas on va bien vous accueillir à Chaillot, on essaye de le faire, mais surtout on va donner les moyens, on va donner du pouvoir d'agir à des communautés que peut-être on ne voit pas. Et c'est comme ça que on a mis en place toutes ces rencontres. Si vous suivez un peu l'activité de Chaillot, les Chaillot invitent, les Chaillot rencontrent, les Chaillot expériences, tous ces temps qui tentent de remplir, en tout cas de tutoyer, de dialoguer avec le quotidien de ces personnes et comment eux se sont appropriés ces environnements numériques. Puis après, peut-être, parce que le numérique a quand même un peu envahi notre quotidien depuis un certain temps. Et effectivement, je pense qu'il se loge dans des affects, il nous accompagne dans notre pensée critique parfois. Quand tout à l'heure tu parlais de c'est quoi Expo, en ce moment il y a des gens qui s'émeuvent de voir des compétitions de Tetris, parce qu'ils les ont connues il y a 30 ans, il y a même des films autour de ça. Et c'est vrai que dans les années 90, au début des années 90, quand je découvrais les dumb type, et où je voyais ces œuvres, où je me surprenais d'en être ému aux larmes, de voir le collectif qui, tout d'un coup, parce qu'on utilise des sons d'électrocardiogramme, des bip-bip, des sons électroniques, fait jaillir un sentiment de la disparition, de la mort, de l'accompagnement médicalisé de la mort, ce qui est propre à notre civilisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'une marche funèbre de Mozart pour évoquer la disparition et la mort, mais tout d'un coup, ces choses se sont logées en nous et on découvre des artistes qui nous font la démonstration de comment on les a incorporés, c'est-à-dire comment ça a façonné nos imaginaires. Et je te rejoins, je pense qu'effectivement, ces technologies nous ont transformés dans des endroits assez intimes. Ou une autre installation, bon, on était dans les années SIDA, vous savez certainement que le leader du dumb type de l'époque est mort du SIDA, où on s'approchait de son corps dans un écran, et plus on s'approchait, il y avait un système de capteurs, il nous tendait les bras, comme s'il voulait nous prendre dans ses bras, et plus on s'approchait, plus il basculait en arrière, et il disparaissait dans un abîme. Et là, tout d'un coup, on voit aussi comment ces environnements numériques sont venus nous chercher dans des choses qui sont universelles, hein, qui n'ont rien de nouveau. La mort, la disparition, l'amour, le vieillissement. Et je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on a, entre guillemets, muté, on se doit d'être attentif à ces artistes qui savent écrire avec cette nouvelle grammaire, qu'on a une conscience, des fois moins de conscience, mais en tout cas, voilà. Donc, aussi bien pour la communauté des artistes que pour les publics, et pour cette frontière floue. Parce que tout à l'heure, Anne, tu disais, le public devient aussi des créateurs. Ils contribuent. Après, on pourra voir ce qu'on met dans l'acte de création, et qu'est-ce qui fait œuvre. Est-ce que dès qu'on est dans l'esthétique relationnelle, ça fait œuvre, voilà. Je ne sais pas si c'est un débat qui doit beaucoup nous occuper. Mon débat sera toujours celui de faire lien. Et peut-être que faire lien, c'est faire œuvre. Donc voilà. Voilà pourquoi à Chaillot, on essaye de donner un peu de la place à ces environnements numériques, que ce soit dans la façon dont ils embrassent le quotidien des gens, comment nous, on peut rejoindre ce quotidien, et comment des artistes, peut-être, se le sont appropriés pour écrire des nouveaux récits aujourd'hui.
On entend dans vos différentes interventions, en fait, ces enjeux autour des questions de pouvoir d'agir, de pluralité des voix aussi. Et donc, d'enjeux démocratiques, c'est aussi une discussion qu'on avait. Peut-être, Benoît, tu peux rebondir là-dessus sur comment aussi le numérique a déplacé, dans le fond, l'attente qu'on peut avoir des institutions, l'existence des institutions, d'ailleurs, parce qu'on voit bien, les danseurs de K-pop ne savent pas que Chaillot est là. En fait, l'institution, elle n'existe pas comme ça. Elle apparaît potentiellement. Quel rôle peut-elle jouer, notamment démocratiquement ? Qu'est-ce que tu perçois, en tout cas, comme enjeu pour les institutions ?
Je trouve que Rachid l'a très très bien décrit de quelle est la place d'une institution. Et pour moi, comme j'accompagne des services culturels de ville, enfin des institutions aussi, sur en gros comment on fait pour à la base faire venir des gens, des citoyens du coin dans les lieux alors qu'ils ne savent même pas que ça existe. Et du coup, ça pose. C'est évidemment la manière dont le problème, si je puis dire, est posé, en fait, qui pose la question. C'est-à-dire, si le but, c'est de remplir des pièces, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens démocratique. Mais c'est vrai que. Et là-dessus, vous connaissez peut-être, il y a un livre qui a 2 ans de Marjorie Glass, qui a fait suite à sa thèse, qui s'appelle « Quand l'art chasse le populaire ». C'est une histoire du théâtre public de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale à aujourd'hui, où elle montre comment, petit à petit, le lieu, institution culturelle subventionnée, est devenu un lieu de reproduction bourgeoise, et pas autre chose, en fait. Mais Pierre Bourdieu le décrit très très bien dans La Distinction. Hein, La Distinction, c'est 79 ou 80, sur le fait qu'on va dans des endroits pour faire partie d'une classe sociale, en fait. Hein. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est ce qui se passe. Hein, si on regarde en sociologue, bien sûr, c'est ce qui se passe. Mais sauf que l'argent qui nous finance, en théorie, il n'est pas fait pour ça, en fait. Pour une raison technique, qui est que c'est l'argent de tous les contribuables. Et qu'en plus, les classes populaires payent 2 fois plus d'impôts que les classes bourgeoises, parce qu'ils payent plus de TVA en proportion, etc. Donc en fait, c'est les gens qui payent le plus d'impôts qui profitent le moins et qui ne savent même pas que ça existe. Donc du coup, il y a vraiment cette mission démocratique. Et du coup, je crois que, enfin, voilà, on boit du petit lait quand on t'écoute, Rachid, mais on peut le dire, et c'est vrai que, par exemple, au ministère de la Culture, il y a 5-6 ans maintenant, ils avaient créé une délégation à la démocratie culturelle, qui est devenue une direction, donc c'est vrai qu'il y a la prise en compte de ça, mais pour être à des endroits, moi, beaucoup de formations professionnelles, on voit bien que, moi, dans des discussions avec les direction régionale des affaires culturelles ou les directions des villes des affaires culturelles, ben, c'est pas évident parce qu'on n'a pas été formé à ça. Et du coup, je l'entends aussi dans ce que tu dis, et que du coup, ben, on se sent de devoir défendre quand même une qualité artistique. Et du coup, la définition, la question du débat sur la définition, je suis d'accord avec toi, les débats sont un peu stériles. Et en même temps, il faut bien savoir dans quelle case ça se met pour savoir à quoi l'argent public, enfin, qu'est-ce qui va financer. Et du coup, moi je pense, enfin, l'approche, c'est que dès qu'on s'ouvre à l'autre, l'autre qui nous fait peur, finalement, on en est enrichi. Donc il y a une question d'identité, en fait. C'est-à-dire qu'on se sent mis en danger dans nos identités quand on doit s'ouvrir à l'autre, en fait. Alors qu'en fait, c'est enrichissant, mais c'est pas facile. Et notamment en tant qu'artiste, je prends un exemple. Un artiste qui fait des ateliers, parce que dans la pratique artistique, il faut quand même le dire, il y a les œuvres qu'on voit sur scène ou dans les salles de cinéma, mais il y a toute l'action culturelle qui est intrinsèque maintenant, enfin, qui fait complètement partie, et tant mieux, mais qui parfois est vécue par les artistes comme les travaux d'intérêt généraux de la culture, hein, de moins en moins, fort heureusement, mais qui en fait, c'est une pratique artistique d'animer des ateliers, etc. C'est pas le truc en plus qui fait chier, quoi. Et ça, je crois que dans ces moments-là, dans la manière de les porter, dans l'ouverture à l'autre, si on n'a pas peur pour son identité, on peut vraiment s'enrichir. Mais quand vous faites des ateliers comme ça de pratique artistique et qu'il y a le résultat de fin d'année, le spectacle de danse, le film, le spectacle de théâtre, l'exposition, on veut que ce soit bien. Parce qu'il y a les partenaires financeurs qui sont là, même les parents, on veut que ce soit bien. Mais du coup, ça biaise le truc, parce que si c'est pas bien au regard de critères esthétiques, par exemple, bah du coup, les gens vont être déçus. Mais alors, du coup, l'artiste se retrouve dans une position bizarre, faut qu'il agisse plus. J'ai même vu, une photographe qui faisait faire des photos à des jeunes, puis ensuite, elle refaisait les photos elle-même pour que ce soit bien, enfin... Et c'est d'une violence terrible. Mais du coup, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'on est là pour juger. Et l'artiste, il a peur d'être stigmatisé. Ben, c'est un mauvais artiste, on ne va plus lui donner des budgets. Et pour moi, l'astuce, c'est que dans les moments de présentation, ce qu'il faut présenter, c'est l'ensemble du processus. Par quoi on est passé, les étapes, comment on s'est rencontré, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et oui, il y a un résultat, mais ce résultat est l'une des étapes du processus et non seulement le truc le plus important. Mais, et je terminerai là-dessus, et ça rejoint des choses qui ont été dites ce matin, pour pouvoir raconter ce qui s'est passé, il faut le documenter, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une sorte de double place, en fait, à la fois des artistes et des participants. Moi, souvent, je donne à des jeunes la mission d'être les journalistes du truc. Et il faut des outils, et ce qui est génial, c'est que ça sert non seulement au public, on va dire, de mieux comprendre ce qui s'est passé et de dépasser des questions de jugement pour rentrer dans de l'enrichissement mutuel, mais en plus, ça sert au public eux-mêmes pour reconnaître à eux-mêmes le chemin qu'ils ont fait, parce qu'on ne se souvient plus. Donc, voilà, j'espère que ça répond à ta question.
Oui, documenter, c'est intéressant ce que j'allais y venir en t'entendant, effectivement, cet enjeu de la documentation qui se lie à plusieurs niveaux, parce qu'il y a la documentation aussi pour pouvoir... diffuser, refaire, partager, puis il y a la documentation pour mettre en récit, qui est aussi une autre forme de partage très importante. Comment ces questions, peut-être aussi, est-ce que des questions de documentation, par exemple, pour partager plus, elles sont traversées dans votre collectif ?
Complètement. Ouais. Bah, sur les performances, essentiellement, puisque c'est un concept, encore une fois, je me répète, mais qui est dur à juste raconter comme ça, où on recherche des choses. Donc peut-être que si on se revoit dans 5 ans, je vous raconterai autre chose, ouais, sur ce qu'est une performance. Je ne veux pas être péremptoire là, parce que ça fait assez peu de temps, finalement, qu'on s'essaye à ça. Mais en tout cas, effectivement, la première chose qui est apparue, c'est des appels de personnes, genre, « Ah, on a entendu parler, moi je vais faire un truc, est-ce que je peux l'appeler performance ?» Donc ça posait la question de ce mot, de ce qui revêt, de sa propriété éventuelle. Et donc c'est ce qui a abouti effectivement à deux choses. Le premier, c'est de décider ensemble que c'était, et là on se rapproche du vocabulaire numérique, un concept open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut se revendiquer, on n'est pas propriétaire de ce mot, voilà, il n'y a pas de droit de suite ou d'auteur à nous reverser. Tout le monde peut faire une performance. Par contre, il y a un manifeste. Donc c'est pas à cause de ces demandes qu'on s'est dit, il faut qu'on rédige quand même une base de ce qu'est une performance. Donc un manifeste qui décrit assez sommairement ce que c'est, mais surtout qui pose les valeurs et les enjeux de ce qu'est une performance. Notamment, on a pu avoir des gens qui pensaient faire une performance alors qu'ils faisaient un let's play, c'est-à-dire qu'ils allaient jouer un jeu en live et le commenter. Et c'est pas ça. Y a, comme on dirait dans le théâtre, il y a un geste d'écriture dans une performance. voilà, donc ça aboutit à ce manifeste. On est très peu lisible numériquement, bizarrement, sous les néons. Mais vous pouvez trouver toutes ces infos sur notre Instagram, sous_les_néons. Il est épinglé en haut, ce manifeste. Voilà, donc ça a permis de le diffuser et que des gens disent, se sentent légitimes sans avoir à demander notre validation d'utiliser le mot performance. Et puis de rentrer. Tous rentrent en dialogue avec nous, et ça permet aussi de nourrir ces échanges. Et deuxième chose, on est en train de faire effectivement une sorte de répertoire, on est en train de compiler, là ça va être nos 5 ans en novembre, on va compiler tout ce qui s'est fait en termes de performance, pas tant pour le public que pour nous-mêmes, pour voir un peu un petit bilan, quoi, en gros au bout de 5 ans, voir tous les jeux qu'on a fait, qui ont été performés, qui les a fait, quel type de personnes, qu'est-ce qui a rejoué, pas joué, qu'est-ce qui a évolué. Pour beaucoup de personnes qui performaient, la fois je leur dis super, on est programmé là-bas. Ah ben non, moi je l'ai faite ma performance. Donc même la notion de, parce que moi je réfléchis pas venant du spectacle, on crée un truc, on va le jouer quoi, le plus de fois possible. Donc même cette question de rejouer quelque chose s'est posée, on bosse avec des gens dont c'est pas le métier quoi. Donc on va créer un site ressource qui va compiler tout ce qu'on a fait sur les performances. Je sais pas à quoi ça servira, parce que pour nous ça va nous servir de prendre du recul, peut-être ça servira à d'autres personnes.
Et on aura le plaisir de le relayer aussi auprès de la communauté. Rachid, du coup, je reprends nos échanges et on terminera sur cette dernière question, qui n'est pas tout à fait une question, c'est que je reprends une citation de notre échange. Tu as dit « Le digital est aussi un antidote pour nos institutions ». Tu parlais notamment qui rendait visible en fait, les choses et qui nous obligeait à voir. J'aurais bien aimé revenir sur ces questions-là en fait, que tu avais abordées. Et notamment, alors que je reprenne mes petites notes... c'est ce que je m'étais noté. Voilà.
Je crois que je vois pourquoi j'ai dit ça. Je pense que c'était un moment. Moi, il y a quelque chose qui m'occupe toujours beaucoup quand on est à la tête d'une institution comme Chaillot. Il y a tout l'héritage de ce théâtre national populaire, cet héritage de la démocratisation culturelle. Cet héritage d'être à la tête d'une institution où a été signée la Déclaration universelle des droits de l'homme après-guerre. Donc on doit quand même un petit peu s'interroger sur qu'est-ce que c'est que de partager et de s'ouvrir à tous. Et à toutes. Quand je disais antidote, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les pratiques du numérique... on va citer Véry, on est dans une telle accélération de la société et que cette démocratisation des outils numériques qui n'arrête pas de la découverte de l'Internet, au passage aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle, ça vient tellement, tellement faire du partage d'informations où, en tant que société, tous, on essaye de se responsabiliser pour apprendre à les filtrer, etc. Mais c'est quand même compliqué de se rendre aveugle en ce moment sur ce qui se passe. Tellement on est informé. On est dans une société de l'information, alors biaisée parfois, etc. Toujours, il faut rester critique. Mais la masse d'informations, elle est hallucinante. Et c'est difficile de dire « je ne savais pas, je n'ai pas été informé ». Tellement des informations circulent et tellement des initiatives artistiques circulent et des courants de pensée. Donc c'était dans ce sens-là où je disais le numérique et les environnements numériques, c'est ce qu'ils ont aussi de géniaux. Quand je dis toujours environnement numérique de création, au sens où on peut les entendre dans des instances dites de création ou les usages du quotidien. On ne peut plus ne pas savoir ce qui se passe au fin fond d'un village africain, en Amazonie, etc. On reçoit ces informations-là et c'est précieux. C'est précieux quand après quand même un système culturel qui aujourd'hui s'interroge énormément grâce à différents courants de pensée, post-MeToo, post-décolonial, etc. Tout ce que l'on a invisibilisé, aujourd'hui c'est devenu un terme voilà, qu'on a tous dans notre jargon, mais je pense qu'il y a quand même un endroit de conscience par rapport à ça, où il y a moins un complexe de supériorité de certaines institutions culturelles, et en plus quand on est en Europe, un peu moins eurocentré. Donc voilà, je pense que le numérique, ça a ça de bon, dans le sens où il y a un tel partage de l'information aujourd'hui que, quand tout à l'heure je parlais de K-pop, quand je parlais de... Il y a tellement d'expressions, c'est difficile de ne pas voir la richesse de ce que produisent toutes les communautés créatives en ce moment sur la planète. Donc je pense que c'est là que j'ai dit antidote.
Oui, et je reprenais mes notes où en fait, effectivement c'était ces questions de... on ne peut plus être aveugle aussi au rapport de domination qui existe et donc être obligé de s'interroger. C'est, oui, et effectivement à cette complexité du monde à laquelle on est exposé en continu et qu'on ne peut plus ne pas voir.
Oui, je pense que le travail qui va être amené, c'est ça. C'est quels sont les biais des technologies qu'on utilise, quels sont les rapports de domination implicites. Il y en a toujours. Je vais essayer de la faire courte, mais c'est vrai que j'aime bien rappeler combien, avec toute la générosité et la bien-pensance que l'on peut avoir, on peut rentrer dans un magasin comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. C'est, allez, je leur fais pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu faire ça, mais au moment où on crée cet établissement, où on crée cette institution, une exposition universelle qui célèbre les savoirs et les cultures du monde, on était il y a plus d'un siècle, à ce moment-là, ce qu'on expose, c'est les trophées des colonies. C'est-à-dire un rapport... des fois, j'aime bien le ramener à ma propre histoire familiale. Les expositions coloniales, c'est jusqu'en 1955. On expose encore des maghrébins. C'est-à-dire que la génération de mon père aurait pu se retrouver dans un de ces trucs-là, qu'on mettait en contrebas. Alors que tout le monde est convaincu, en fait, qu'on est en train de parler d'une ouverture d'esprit, d'un partage des cultures. Non, à l'époque des expositions universelles de ce moment-là, il y a ces rapports de domination coloniale extrêmement fortes. Au moment du mouvement de la performance, quand la performance américaine arrive... Au même moment, on a le Gutai, un autre mouvement de performance qui naît au Japon. Sauf que le Japon est sous occupation américaine à ce moment-là. Donc on ne va pas donner la place à cette expression-là. Etc., etc., etc. Donc il y a toujours des rapports de... Et puis il y a toujours des personnes qui se vivent les gardiens du temple. Puis c'est vrai que ça, on a toujours du mal à lâcher quand on est à la tête d'une institution, quand on participe à un courant artistique, ce qui est tout à fait légitime, quand on a appris des choses et qu'on veut les transmettre et qu'on pense qu'on a des choses à dire, ben voilà, il faut toujours se donner le plus possible les moyens, parce qu'on est tous pétris de biais et de préjugés. Hein. Donc c'est qu'est-ce qu'on arrive à mettre comme cellule de travail dans une institution comme celle-là, pour rester attentif et pouvoir rester autocritique entre nous, et de ne pas invisibiliser trop vite des choses. Et un dernier exemple, alors là, je remets ma casquette artiste. Je me rappelle, en 2004, j'avais fait une pièce où je me disais, tiens, c'est quoi ? Bon, j'étais quand même un petit peu déjà, je me demande, sur qu'est-ce que c'est qu'un héritage ? Et je décide de faire une pièce autour du jeune homme et la mort, le hit de Roland Petit, qui crée donc le jeune homme et la mort après la Seconde Guerre mondiale. Et donc je Google, parce qu'à l'époque, l'intelligence artificielle n'était pas encore autant démocratisée, je Google jeune homme est mort. Le jeune homme et la mort, et l'hypertextualité du moteur de recherche de l'époque me renvoie tout ce qui met en lien la mort et la jeunesse. Donc, la Première Guerre du Golfe a eu lieu, tout ce qui est les jeunes kamikazes musulmans, l'esthétique gothique aussi, comme une esthétique mortifère. On commence à suspecter Marilyn Manson d'avoir influencé les crimes de masse à Columbine, au collège de Columbine, etc. etc. Les suicides collectifs sur Internet. Et je pars, peut-être très influencé par les dumb types de l'époque, sur c'est quoi la mort digitalisée, en tout cas partagée, la représentation de la mort dans cette société transformée par l'Internet. Et c'est vrai que déjà, dans la géographie que je viens de dessiner, États-Unis, Japon, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, je ne sais plus, si, Moyen-Orient, évidemment, on se dit, voilà, on est dans quelque chose de très éclaté sur le monde. Et en même temps, je me rappelle de m'être fait un peu tacler lors d'une discussion autour de art et nouveaux médias à l'époque, d'une personne qui me dit, mais vous avez bien conscience que vous avez utilisé Internet. Alors, je regarde, je dis, bah oui, je viens de le dire. Et du coup, avec tous les biais de l'Internet de l'époque, c'est-à-dire de tout ce qui était partagé sur Internet, et avec les moteurs de recherche de l'époque, avec les sociétés de l'époque, qui pouvaient beaucoup plus mettre en partage. Donc, il y a toujours des biais. Après, ce qu'il faut, déjà, c'est le savoir. Et ensuite, c'est comment on les travaille, comment on se donne les moyens de rester critique. Donc voilà, antidote certainement, mais toujours dans les rapports implicites de domination culturelle entre nations, entre hommes, femmes, entre pauvres et plus dotés. Comment à chaque fois on arrive à repérer à défaire ces enjeux-là pour faire accessibilité dans une institution comme la nôtre.
Merci beaucoup. Je vais t'inviter, Maud, à revenir avec nous pour prendre des questions de la salle. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenantes et intervenants ? Oui, je vois une question là et une question de ce côté. Merci.
Sorry, oui. We didn't hear very well. Just to be sure.
Merci.
Je vais essayer en français encore. Sinon, c'est. Ok. Merci. Et aussi, peut-être vous pouvez parler le valeur sur l'expérience IRL et le diffusion sur l'internet. le diffusion pour le peuple digital, pour l'audience digital.
Tu veux répondre
si j'ai bien compris, vous voulez qu'on parle de la différence entre l'expérience IRL, c'est-à-dire in real life, physique, sur scène, etc., et l'expérience digitale.
Oui, c'est ça. Comment ça peut diffuser et capturer la même essence de la scène pour les gens qui vous ont un spectacle à distance.
D'accord. Peut-être tu veux.
Pour donner une petite note là-dessus, parce que par mon travail dans le métavers, j'ai beaucoup réfléchi au spectacle dans les espaces numériques / les espaces IRL. Et pour moi, dans les espaces numériques, ça peut pas être juste un duplicata de ce qui se passe en IRL, ou alors certains éléments, par exemple la performance physique peut être prise, comme je disais, en motion capture et dupliquée dans un monde virtuel, mais les mondes virtuels ou en ligne, hein, que ce soit de la vidéo, des mondes virtuels, quelle que soit la plateforme elle a ses propres codes, et du coup il faut un peu réadapter l'œuvre pour cette nouvelle plateforme, que ce soit en temps réel diffusé dans les deux espaces numériques et physiques, ou diffusé en différé, ça nécessite quand même un travail de réadaptation un petit peu de l'œuvre, pour toucher les publics numériques et pour avoir aussi une sens d'essence de l'œuvre qui soit logique avec le support. C'est comme un livre qui serait réadapté en film. On ne va pas faire une adaptation complètement littéraire, mais on va quand même reprendre l'essence du récit et en faire une adaptation. Donc je crois que c'est très important de connaître la plateforme sur laquelle on performe en ligne, ses codes, son public, pour nous s'adapter. Parce que si vraiment c'est juste une transmission, c'est souvent très pauvre par rapport à l'émotion du moment même. Un avatar, par exemple, pour avoir beaucoup travaillé avec ça, l'avatar retransmet moins d'émotions qu'une personne humaine. On a beau faire tout ce qu'on veut, il y a quand même des émotions, donc il faut un peu surjouer, mettre des contextes qui soient beaucoup plus créatifs. Par exemple, en virtuel, on peut vendre le fait qu'on est dans le cerveau de l'artiste, dans son univers créatif, en allant beaucoup plus loin, mais en perdant un petit peu sur la performance purement humaine et vivante. Donc il y a des compromis à faire entre la performance, le spectacle vivant et les plateformes sur lesquelles on performe.
Vous avez touché beaucoup de thèmes vraiment complexes. Mais d'abord, je vous remercie, M. Lijon, pour avoir mis le concept open source, parce que c'est vrai qu'il y a des producteurs de concepts qui les exploitent après de manière capitaliste, alors qu'ils se veulent critiques du capitalisme. Donc, merci beaucoup pour ce déplacement fécond. Après, la question est sur l'œuvre. Qu'est-ce qui fait œuvre ? En tout cas, la question que vous avez tous et toutes évoquée et qui m'a touché, c'est qu'est-ce qui fait œuvre ? ça aura pas l'air d'une question, mais c'en est une, ça a besoin d'une mini prémisse. La fonction robe grillée dans Pour un nouveau roman dit, depuis Duchamp, on peut plus savoir qu'est-ce qui est une œuvre et qu'est-ce qui ne l'est pas, puisqu'un objet acheté au BHV et exposé dans une galerie devient une œuvre d'art. Mais il dit, mais on sait toujours quand même définir quelle est la fonction d'une œuvre d'art. Et la fonction d'une œuvre d'art pour Grobe-Grillet est, ce n'est pas défendre une idée ou illustrer un propos, aussi bon soit-il, c'est de faire surgir une question que l'on n'avait pas chez le spectateur ou spectateur ou spectatrice ou interacteur ou interactrice, comme on disait dans les théories des médias. Donc, si je prends ça comme mes repères intellectuels, la question pour des diffuseurs, pour des producteurs, pour des accompagnateurs serait à quelles conditions et comment vous vous y prenez pour faire que les producteurs d'expériences numériques donnent par leur production ce déplacement, offre la possibilité aux spectateurs et aux interacteurs d'opérer ce déplacement interne qui fait œuvre. Parce que l'œuvre, une œuvre d'art pour enfants peut ne pas faire œuvre pour moi, mais pour eux, oui, on est dans la même culture ou sous-culture, peu importe comment. Ce qui est important, c'est, et je cite Bourdieu parce que la Beautête l'a déplacé, ce qui est fondamental est comment créer de la résistance à ce que Bourdieu appelle la violence symbolique, c'est-à-dire la construction d'une axiologie imposée par le pouvoir comme ce qui est juste et bon. C'est exactement ce que disait Rachid quand il parlait même de les morts pudiques, dans lequel, tu l'as pas cité Rachid, mais tu aurais pu. Il y avait un autre exemple qui était critique d'Internet, puisque un des événements qui était cité dans la pièce, c'était des forums dans lesquels il y avait des gens qui incitaient un internaute à se suicider, qui avait annoncé qu'il voulait se suicider, qui se suicidait sur le web et qui donc, il y avait des gens qui l'incitaient à prendre plus de pilules pour le voir mourir, pour en faire un spectacle, etc. Bref, tout ceci pour donc reposer la question finale qui est comment, en tant que diffuseur, vous vous prenez pour que, un, une œuvre ait son destin, c'est-à-dire elle touche un public. Comment elle rejoint un public, et deux, comment à partir du numérique, de sa possibilité de transformative, puisque le numérique c'est le quatrième état de la matière, hein, elle peut être solide, liquide, gazeuse ou numérique quelque part. Donc elle peut tout devenir, la téléologie d'un homme numérique, c'est de pouvoir tout devenir. Donc en pouvant donner accès à des artistes, à des outils qui font œuvre, c'est un, comment cette œuvre rejoint un public, comment vous vous y prenez dans vos respectives pratiques et lieux respectifs, et deux, comment être sûr que les artistes que vous accompagnez puissent opérer pour faire ce fameux déplacement, pour faire surgir une question que l'on n'avait pas. Désolé pour la longueur de la question. Qui a envie de...
C'est très large, tout ce que vous dites. Je vais assumer de parler en non-expert de cette question. Par exemple, moi, je trouve déjà restrictif d'imaginer qu'une œuvre se valide parce qu'elle déplace. Déjà. Moi, je pense qu'il y a des œuvres qui sont intéressantes parce qu'elles ne déplacent pas, mais c'est, j'en passe un langage un peu vulgaire, c'est des doudous. Et moi, je suis très attaché à la citation, et j'ai honte devant vous, parce qu'à chaque fois, je le cite, et à chaque fois, j'oublie son nom. Donc, vous avez sûrement quelqu'un pour le dire. C'est, vous parlez de la fonction de l'œuvre d'art, et c'était la question à quoi sert l'art, et l'art, ça sert à rendre la vie plus intéressante que l'art. Et quelqu'un là ou pas ? Merci, Philippe. Merci. Et moi, c'est un peu mon credo qui m'aide à garder du sens dans ce que je fais. Et parler d'œuvre aussi me limite beaucoup, et sûrement parce que peut-être j'ai pas assez réfléchi, mais c'est pour ça qu'on a parlé de ça tout à l'heure. C'est, moi, je regarde plus, là, je me mets avec ma casquette plutôt de directeur ou voire de producteur de spectacle, de qu'est-ce que ça produit. Alors, est-ce que c'est une œuvre ou pas? Je veux bien en débattre après à l'apéro, etc. Mais sur le moment, est-ce que ça produit est intéressant? Alors, qu'est-ce que ça veut dire être intéressant? Là, le débat est ouvert. Est-ce que, effectivement, ça déplace? Qu'est-ce que ça fait cogiter? Est-ce que ça émeut? Est-ce que ça fait vivre un moment collectif aux gens? Est-ce que ce moment ne monte pas les gens les uns contre les autres? Souvent, en théâtre, on désigne une victime, on est tous d'accord dans la salle, c'est le méchant de droite, etc. Enfin, c'est tout, ça tire toutes ces questions. Mais c'est plutôt comme ça que je le vois. Et je vais me taire, voilà. Mais c'était une réaction à chaud, pas très construite, désolé, mais réaction à chaud.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir ?
Bah, comment dire, il n'y a pas une réponse à comment on fait. Tout dépend le type de processus artistique qu'on accompagne. Et voilà, c'est. Ce soir, on programme le Ballet du Rhin avec Forsyth au Théâtre de la Ville, dans notre cadre de notre programmation Hors les Murs. Voilà, l'acte de programmer William Forsyth n'est pas le même que de t'inviter, que de proposer Sing In Chen dans l'autre studio. Donc, à chaque fois, c'est différent. Mais toujours, ce qui doit rester une boussole, c'est qu'on essaye de s'appliquer, c'est celle de garder un espace qui fait de la curiosité et qui fait de l'interaction. Le pire, je pense, c'est vrai, bon, je partage, quand je reçois des projets dont je ne comprends pas l'adresse, je ne vois pas à qui ça s'adresse, on peut trouver, hein, on a eu ça pendant un moment, là on l'a orienté plutôt vers dans un autre programme pour des artistes qui agissent en territoire vulnérable et dangereux, mais avant, la Fabrique Chaillot, c'était ça, c'était une sorte de laboratoire, peut-être on nomme des fois la recherche fondamentale, il faudrait là aussi préciser ce qu'on entend par là, mais quand je n'identifie pas d'adresse, en général, ça aide dans tous les moments où on doit dire non, parce qu'on reçoit tellement de problèmes. Donc dans l'acte d'accompagnement, de programmation, ce qui peut être un curseur, c'est celui-là, c'est d'identifier des adresses, et ça par contre c'est assez réjouissant, et surtout quand on a des nouvelles adresses. C'est-à-dire qu'on dit waouh, ça on sait pas, ça on n'a jamais accompagné, on sait pas faire. Ils nous disent qu'ils vont travailler de telle et telle façon, ils vont rencontrer un peu réduit, large, mais à chaque fois des nouvelles formes d'adresse. Ça c'est quelque chose qui peut aider. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas la réponse elle est pas monolithique, parce que sinon c'est affirmer un courant, c'est affirmer un régime de pensée uniquement, parce que voilà.
Sur la question de l'adresse, moi j'ai été tellement souvent dans ma vie dans des commissions d'aide pour des projets de films ou des projets d'art contemporain numérique. Moi je posais toujours cette question-là, c'est à qui ça s'adresse? Parce que si on finance des choses, c'est... Et alors on peut dire, ah là là, c'est une instrumentalisation de l'art, ça doit être l'art pour l'art, etc. Ça doit s'adresser à tout le monde, etc. Mais il faut bien l'adresser quand même, sinon ça reste tout seul sur une étagère. Et je pense quand même, pour essayer de répondre un peu à votre question, moi j'ai l'impression que la question du lien, c'est que dont tu parles très bien, Rachid, c'est vraiment l'ADN de l'institution, c'est-à-dire à quoi ça sert d'avoir des institutions politiques? C'est pour faire lien, c'est pour exister ensemble, en fait. Et du coup, les lieux culturels participent du rôle, en fait, des institutions publiques, toutes les institutions, parce que tout est institution, dès qu'on commence à s'organiser, même dans un petit groupe, en discutant, c'est déjà une institution. C'est pas que les grandes institutions. Et je pense que, quand même, dans l'histoire très française, en fait, de l'art, pour le dire, je vais faire très très vite, au départ, l'art subventionné par l'État, c'est quand même Louis XIV, le but, c'est la magnificence de la France, on parle français dans le monde entier, etc. Donc c'est un outil politique, hein. Et aujourd'hui, c'est fini, les politiques, ils s'en fichent complètement du théâtre, de la danse, même dans une ville, le maire, il va plus au spectacle. Ce n'est plus des lieux de pouvoir, en fait, les lieux de comme ici, en fait, ce le fut, mais ça ne l'est plus. Par contre, ce sont devenus des lieux démocratiques, des lieux de la démocratie qui sont financés par la démocratie. Et du coup, il faut absolument faire lien, comme tu le fais. Et c'est aussi comme ça que on va pouvoir, il faut tenir le discours démocratique, en fait, et il faut mettre en pratique la démocratie au sein même des lieux culturels. Sinon, ils n'auront plus aucune raison d'être financés, en fait, parce que comme c'est plus pour asseoir un pouvoir symbolique, du coup, les élus, à la base, ils n'ont aucun intérêt à financer ça pour leur propre pouvoir, en fait. Donc, je pense que c'est plutôt hyper intéressant. Et n'oublions pas que c'est pour faire un clin d'œil à ce que tu disais, Rachid, comment le ministère de la Culture a été créé, en fait ? Eh bien, en fait, ils n'y arrivaient pas, parce que comme à l'époque, ils ne faisaient pas des emprunts, ils ont pris de l'argent à l'éducation nationale et à l'éducation populaire. Personne n'en voulait du ministère de la Culture en 59 en France. Il y avait des oppositions absolues partout. Donc, qu'a fait Malraux ? Il a fait venir des fonctionnaires d'Afrique, en fait, des fonctionnaires, des gens qui savaient coloniser, en fait, et qui racontent bien, qui disent que la manière dont ils ont discuté avec les présidents de régions, etc., pour asseoir et pour faire qu'il y ait des lieux culturels, qu'il y ait des services déconcentrés de l'État, etc., pour eux, c'était comme la brousse, c'était imposé la grande culture, etc. Ils ont colonisé la France avec le ministère de la Culture en 59, et ils le disent bien, c'est Marie-Ange Roche qui raconte ça dans un très beau texte qui s'appelle « Les hussards du ministère de la Culture ». Et du coup, on est héritier de ça, en fait. Et simplement, aujourd'hui, pour le dire très vite, les droits culturels et tout ce dont on parle, c'est un petit peu le retour de l'éducation populaire, finalement, au sein de la culture officielle. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que tout ça, on peut mixer, on peut hybrider, et ça fait des choses magnifiques, en fait, hein. Et diversifier.
Pour ajouter un mini point à ça, mais je vais essayer de ne pas être trop longue, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est d'autant plus important à l'ère de l'algorithmie, donc les réseaux sociaux, le numérique, où on nous donne, entre guillemets, à manger ce qu'on mange déjà, c'est-à-dire on regarde une thématique et on est absorbé par cette thématique. La curation, que ce soit des lieux culturels, des artistes, qui emmènent vraiment leur regard et leur communauté vers des nouvelles formes, pour moi c'est très important et c'est ça qui va faire la vraie différence entre ce qui va être réalisé par des algorithmes, des intelligences artificielles et compagnie, avoir un vrai œil humain derrière une programmation ou derrière une œuvre, ou dans mon cas plutôt un artiste musical qui va amener sa communauté sur d'autres plateformes, dans la vraie vie, dans des mondes virtuels, etc., parce qu'ils ont une fanbase qui est prête à les suivre où est-ce qu'ils vont et un point de vue artistique très fort. Du coup, ils peuvent construire cette bulle artistique et cet esprit dans tous les espaces. Et quand on parlera un petit peu du projet Calypso, je pense que c'est un peu l'idée aussi d'avoir une ADN de lieu tellement forte qu'elle peut être sur plusieurs plateformes, elle peut être dans un lieu physique comme ici, mais en fait l'esprit du Théâtre National de Chaillot peut aussi être dans un métaverse, peut aussi être dans la rue, peut aussi être dans un autre pays, dans un sous-marin. Enfin voilà, c'est savoir quel est notre ADN artistique et la défendre sur tous les supports. Et c'est ça qui fera la force des propos artistiques, où qu'ils soient, plutôt qu'autre chose.
Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Merci à vous toutes et tous pour vos présences et pour les questions. On va s'arrêter là pour la pause déjeuner, bien méritée. La reprise dans cette salle sera à 14h30, effectivement avec la présentation du projet Calypso, porté par Chaillot Théâtre National de la Danse. En parallèle, vous aurez à partir de 15h la session expert ACNUM et PXN dans le foyer de la danse, et toujours accès à des œuvres VR aussi pendant la pause déjeuner. Donc retour à 14h30, je vous dis bon appétit.